Merci Anne-Marie, bonjour à tous. J'espère qu'il vous reste quelques forces malgré la chaleur qui rend les locaux pas très agréables en cette saison. D'autant plus que je vous amène dans un endroit où il fait chaud. Je vous amène dans le désert et en plus il y a quelqu'un qui a allumé un feu. Un buisson qui brûle comme ça, sans se consumer, sans s'arrêter. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Moïse et le buisson ardent, absolument. Ce matin, j'ai pensé qu'avant la reprise, avant la rentrée, on pouvait faire des révisions. Parce que pendant l'année, on a fait dans nos groupes de maison, on étudie l'Exode. Le début de l'Exode, on en est au chapitre 7, je crois. Et là, un petit retour en arrière, j'aimerais revenir sur l'appel de Moïse. Parce que c'est un texte qui m'a beaucoup marqué. On le connaît, pour peu qu'on ait baigné dans le milieu chrétien, on le connaît depuis qu'on est enfant. Et pourtant, pour l'étudier pour les groupes de maison, ça m'a vraiment amené à le revisiter, à voir des choses nouvelles. Alors, l'appel de Moïse, c'est chapitre 3 et le chapitre 4, hein, jusqu'au verset 18 du livre d'Exode. Et je me suis dit qu'on n'allait pas tout lire ce matin, c'est un peu long. Mais du coup, ce que je vous invite à faire, c'est relire le texte après la prédication, avec le souvenir de ce qui a été dit ce matin, pour aller plus loin, pour voir dans le texte ce qui a été dit et vous laisser aussi interpeller encore un peu plus que l'interpellation que vous avez pu recevoir pendant la prédication. Alors Moïse. Moïse, tout le monde le connaît, ou presque. Non, tu ne le connais pas? Comment? Il est mort, oui. Mais si tu le sais, c'est que tu le connais. Moïse, il est mort. Mais avant de mourir, ça a été un grand leader du peuple d'Israël. Un grand leader, ça a été celui qui les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage. Et ce n'est pas anodin, parce que c'est en quelque sorte la naissance du peuple d'Israël. Avant ça, c'était une tribu, une famille qui avait grandi, qui avait bien réussi. Mais cette sortie d'Égypte et ce passage ensuite, plus tard, à travers la mer, c'est sa naissance. Et quand on lit la Bible, chaque fois qu'on a un psaume, un récit qui nous parle de l'histoire du peuple, on revient toujours à cet acte. Tu nous as fait sortir d'Égypte. C'est Moïse qui était là, Moïse, un prophète unique, un ministère unique, qui a fait sortir le peuple, je l'ai dit, lui a donné la loi également. Quelqu'un de tellement marquant que Jésus a été annoncé comme le nouveau Moïse qui allait venir pour libérer à la fois, et cette fois, pas uniquement les Hébreux d'Égypte, mais l'humanité l'a libéré de l'esclave du péché. Mais voilà, le livre de l'Exode nous raconte les débuts de Moïse. Moïse, quand il naît, ce n'est pas facile. Il est destiné à la mort parce que c'est un temps de persécution pour son peuple et que le pharaon veut tuer tous les enfants garçons qui naissent parmi les Hébreux. Et par un concours de circonstances, ou plutôt par la bienveillance de plusieurs femmes qui veulent l'aider, il est sauvé. Sauvé par les sages-femmes, par sa mère, par la fille de Pharaon, par sa sœur. Il est sauvé et il est élevé par la fille de Pharaon. Jusqu'au jour où il y a cette histoire, ce truc où, pour aider un Hébreu, il tue un Égyptien, pensait être discret, mais la chose se sait, la chose se répand. Le pharaon l'apprend, ça le met en colère et Moïse s'enfuit pour sauver sa vie. Il s'installe dans le désert, il se marie, il devient berger Et c'est là que Dieu vient le chercher, que Dieu vient l'appeler. C'est là, dans le désert, qu'on le trouve avec ce buisson ardent, c'est-à-dire un buisson qui brûle sans jamais se consumer. Il devait être assez grand pour que Moïse le voie de loin et fasse un détour pour aller le voir. Et là, quand il arrive, je raccourcis le récit, mais le Seigneur s'adresse à lui. Et le Seigneur lui dit, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites, les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va. Je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » L'appel que Dieu fait entendre à Moïse est clair. Est-ce que vous vous souvenez la réponse qu'il donne à Dieu ? Est-ce que c'est une réponse enthousiaste ? Non, pas trop. C'est au contraire, il refuse. Et j'ai réfléchi, je crois que rarement dans la Bible, quelqu'un refuse avec autant de force. Il y a bien Gédéon qui demande des signes. Il y a Jonas qui s'enfuit, mais bon, sa fuite fait aussi partie de son ministère et de ce qu'il apprend. Et le plus souvent, quand Dieu appelle quelqu'un, les gens sont surpris. Mais Dieu, quand il insiste et qu'il rassure, ils acceptent. Là, Moïse, cinq fois, il refuse. Cinq objections, cinq protestations, il pose. J'ai fait un petit tableau pour les rappeler. La première protestation, il demande « Qui suis-je ? » Je suis personne. Qui suis-je ? Ensuite, à chaque fois, Dieu répond. Hein. Ensuite, il demande « Mais les Israélites, les Hébreux, s'ils me demandent le nom de celui qui m'envoie, du Dieu qui m'envoie. Qu'est-ce que je vais leur répondre s'il me demande son nom ? » Troisième protestation, ils ne me croiront pas. Quatrième protestation, je ne suis pas un homme à la parole facile. Je ne sais pas parler, je ne suis pas qualifié. Et la cinquième, comme Dieu répond toujours, envoie quelqu'un d'autre. N'importe qui, sauf moi. Il a court d'arguments, c'est la dernière chose qu'il dit. Et il y a une progression, je trouve, dans ces protestations. D'abord, il commence avec deux questions. Comment je vais faire ? Tu vois bien que ce n'est pas possible, c'est super compliqué. Comment faire ceci ? Comment faire cela ? Comme Dieu a réponse, deux objections. Ils ne m'écouteront pas, je ne suis pas capable de parler. Et comme Dieu répond toujours là, c'est le refus sec. Pourquoi Moïse refuse-t-il ? Ce texte, hein, je l'ai dit, si on fréquente les églises depuis longtemps, on l'a lu, et on connaît un peu les arguments, on se souvient de tel argument, de tel autre, et puis on le lit comme ça, mais si on essaye de le voir globalement, quelle est la raison pour laquelle Moïse veut refuser ? Parce que j'entendais, quand on nous donne plusieurs raisons pour refuser quelque chose, il y en a toujours une vraie, et c'est celle qui n'est pas dite. Moi, si je me place dans la peau de Moïse, ce qui me fait peur, c'est la confrontation avec le Pharaon. Pas vous, hein, mais moi, aller dans le palais de Pharaon, là où il y a le Pharaon qui est là, qui siège sur son trône avec toute son autorité, où il y a tous ses gardes, où il lève le petit doigt, il me saisit, il me jette en prison ou il me tue, y aller là-bas avec mon frère et mon bâton pour faire des tours de magie alors que je ne suis pas particulièrement magicien, Ça me fait flipper. Mais il me semble que ce n'est pas ce qui fait peur à Moïse. Si on regarde bien le texte, il me semble que Moïse, c'est le peuple qu'il craint. Et si on regarde les objections, il y en a deux qui le concernent lui-même, qui suit, je ne suis pas un homme à la parole facile, et il y en a deux qui concernent le peuple. S'ils me demandent mon nom, ils ne me croiront pas. Ça ne va pas passer avec eux. Et j'ajouterais qu'on peut comprendre les deux objections qui le concernent comme des objections relationnelles, dans la relation qu'il a avec eux. Je ne suis pas un homme à la parole facile, je n'arriverai pas à leur parler. Qui suis-je ? Qui suis-je par rapport à eux pour les mener ? Pourquoi est-ce qu'il craint le peuple ainsi ? Il me semble que l'explication se trouve dans les circonstances de la fuite d'Égypte. Quand Moïse a fui. Le texte biblique nous dit qu'il fuit pour échapper au Pharaon. Mais juste avant, il y a cet épisode où Moïse, après avoir tué un Égyptien pour défendre un Hébreu, souhaite séparer deux Hébreux qui se battent. C'est pas possible. On peut pas faire ça. Si on veut s'affranchir de la coupe des Égyptiens, il faut s'unir, pas se battre entre nous. Et il y en a un des deux qui lui répond « Qui t'a établi comme chef sur nous ?» Qui t'a établi comme chef sur nous ? Pendant le temps passé dans le désert à garder les moutons de son beau-père, je pense que cette phrase a dû tourner dans la tête de Moïse. Il a voulu aider. Il a voulu bien faire. Il s'est mis en danger personnellement, lui qui avait un statut. Il était noble du pays. Il s'est mouillé. Et on a rejeté son aide. Qui t'a établi comme chef sur nous ? J'imagine ce qu'il ressent quand Dieu l'appelle justement à y retourner. Pour prendre ce peuple-là, justement celui-là, et s'occuper de lui. Pour l'emmener hors d'Égypte, à travers le désert, jusque dans ce pays que Dieu a décrit. J'imagine sa réaction. J'ai déjà essayé. Je ne veux pas y retourner. J'ai déjà essayé. Si j'y retourne, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce qui change ? Eh bien, cette fois-ci, quand même, il y a une différence. Une différence de taille, c'est que cette fois-ci, c'est Dieu qui appelle. On a lu le texte de son appel et Dieu n'avait pas appelé la dernière fois. La dernière fois, c'était une initiative personnelle de la part de Moïse. Et ce n'est pas Dieu qui lui avait dit « Vas-y, c'est le moment ». Il est intéressant de voir comment Dieu répond aux protestations de Moïse. Je vous ai dit, pour chacune de ces protestations, Dieu répond. À la première, quand il lui demande « Qui suis-je ?», il lui répond « Je serai avec toi ». Je trouve qu'il ne répond pas directement à la question, mais bon, c'est sa réponse. À la deuxième protestation, s'il me demande son nom, le nom de celui qui m'envoie, je serai qui je serai. Je ne vais pas dire que la réponse soit claire non plus. Un peu d'humour, mais il refuse de répondre. Mon nom importe peu, semble dire le Seigneur. Ce qui compte, c'est que tu peux compter sur moi. À la protestation suivante, ils ne me croiront pas, Dieu donne trois signes miraculeux, trois tours, on peut dire. Dieu équipe Moïse avec sa puissance pour convaincre. Et quand Moïse proteste encore, dit qu'il ne sait pas parler, on voit dans le texte que Dieu commence à perdre patience, en tout cas à s'irriter, à lever le ton. Qui a donné la bouche à l'être humain, dit-il. Sous-entendu, qui peut le plus, peut le moins. Si moi, Dieu, j'ai créé l'homme, je peux le faire fonctionner et le rendre efficace. Et même quand Moïse refuse, une fois de plus, la cinquième fois, et quand Dieu lui dit « ça suffit », même là, il lui donne quelque chose. N'y a-t-il pas ton frère, Aaron ? Dieu donne à Moïse un compagnon pour être à côté de lui dans la solitude du service. Et je trouve intéressant de voir le décalage qu'il y a dans ce dialogue. Quand Moïse parle de lui, des Hébreux et des relations entre eux qui sont impossibles, Dieu recentre sur lui. Je serai là. Je serai là et je suis Dieu, je suis le Créateur omnipotent, je suis là. Et ça, ce n'est pas inédit, parce que si on relit le texte de l'appel de Moïse, Dieu disait déjà qu'il était là. Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un vaste pays, un bon et vaste pays. Maintenant, les cris d'Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que les Égyptiens l'ont fait subir. Maintenant, je t'envoie auprès de Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Je t'envoie. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Je posais la question, qu'est-ce qui a changé ? Moïse a déjà essayé avec les Hébreux, lui et eux, mais il manquait un acteur. Et pas un acteur supplémentaire, pas un second rôle, mais l'acteur principal. Ce n'est pas les Hébreux, un peuple à libérer, Moïse qui s'y met et Dieu qui aide. C'est Dieu qui libère les Hébreux et Moïse qui joue un rôle dans ce projet. Voilà ce qui change. Puisqu'il change aussi, il y a une question, je crois, de timing. Pour une raison qui n'est pas expliquée dans le livre, Dieu a laissé la situation d'esclavage s'installer et elle a duré avant qu'il n'intervienne. Et à un moment, il décide d'agir. Dans ce texte de l'appel, deux fois, Dieu dit « maintenant ». C'est maintenant le moment d'agir. La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu a un plan, il le déroule et il appelle Moïse à y entrer, à entrer dans son action. Et finalement, à court d'arguments ou alors ayant compris qu'il ne fallait plus discuter avec Dieu, Moïse part avec la suite qu'on connaît, Moïse ira jusqu'au bout, libérera le peuple, l'amènera jusqu'aux portes du pays promis, il accomplira sa mission. Et je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas été une mission de tout repos. Il a passé 40 ans dans le désert avec eux, et 40 ans où ce peuple s'est opposé. Il s'est opposé à Dieu et il s'est opposé à lui personnellement. Et d'ailleurs, Moïse sera vite fixé parce que dès après son appel, il va en Égypte, il va voir le Pharaon pour la première fois. Le Pharaon, qui ne veut pas l'écouter, serre la vis sur les Hébreux. Et les Hébreux, à qui vont se plaindre ? Moïse, qu'est-ce que tu as fait pour que notre situation empire ? Laisse-nous tranquilles. Mais c'est son appel. Et Dieu sera là tout au long de son chemin, et il accomplira ce qu'il a prévu. et pour nous aujourd'hui. Que tirer de ce texte ? Une chose dont j'aimerais me souvenir, dont j'aimerais que vous vous souveniez, c'est que Dieu agit. Dieu agit aujourd'hui. La Bible nous le montre. Depuis la Genèse, le premier livre, jusqu'à l'Apocalypse, nous raconte la fin des temps. Dieu déroule son plan. Le plan de l'établissement de son royaume à travers le salut en Jésus-Christ. Et nous, à notre échelle, parfois, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Parfois, on doute. Mais la Bible affirme que Dieu déroule son plan. Son royaume arrive. Jésus-Christ l'affirme. Je viens bientôt. Et il vient pour régner. Dieu agit. Son plan se déroule. Et Dieu nous appelle à prendre part à son action. Dieu nous appelle à prendre part à son action, à l'établissement de son royaume. Mais ce n'est pas un appel vague, un appel qui est fait à une communauté, à un rassemblement de personnes, en espérant qu'un nombre suffisant se sente concerné et se mobilise. Ce n'est pas « est-ce qu'il y aura des volontaires pour distribuer quelques livrets dans la rue, pour inviter des voisins, ou pour contribuer financièrement, ou pour venir donner un coup de main ?» Non, c'est un appel personnel. Il m'appelle moi. Il t'appelle toi. C'est un appel engageant où Dieu nous demande, dans tout ce que tu es, sois mon témoin. Partout où tu passes, sois mon serviteur. Agis pour moi, agis avec moi. Dans l'Évangile, Jésus décrit Dieu comme un maître de maison qui cherche des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Toute la journée, il en cherche, sans cesse. Il semble n'en avoir jamais assez. Et tout ce qu'il trouve, chacun d'eux, a une place. Alors, Dieu est tout-puissant. Le royaume avance, Dieu le fait avancer. Qu'on réponde à son appel ou non. Et Jésus parlera de ses disciples, à plus forte raison de nous qui arrivons derrière, comme des serviteurs inutiles. Mais malgré notre inutilité, Dieu choisit de faire de nous des serviteurs et son appel demeure. C'est un mystère, le mystère de son choix de nous inclure dans son œuvre. Dieu agit et son appel demeure sur nous aujourd'hui. Et il faut bien avouer que parfois ce n'est pas facile. Et plus que l'opposition externe qu'on peut rencontrer, plus que les moqueries, l'opposition, la persécution parfois, il me semble que ce qui est compliqué, c'est de travailler ensemble. L'expérience de Moïse nous le rappelle. Vivre avec nos frères n'est pas toujours facile. L'Église n'est pas toujours facile. Alors, on peut croiser des chrétiens mal affermis qui peinent dans leur lutte contre le péché, voire parfois des gens qui ne sont pas réellement chrétiens, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Même en toute sincérité, ce n'est pas toujours facile. On veut faire les choses bien et on n'est pas bien reçu. On a des convictions et elles sont contestées. Et les blessures dans l'Église arrivent. Les pasteurs arrêtent leur ministère. Des membres un temps engagés à la suite de blessures se mettent en retrait ou alors quittent toute Église. Des chrétiens qui, comme Moïse, vont se cacher dans le désert. Et je dis ça sans sentiment de supériorité parce que ça m'est arrivé de battre en retraite, de me replier pour moi, d'être contrarié, de dire « puisque c'est comme ça, c'est sans moi ». Que faire dans ces cas-là? Comment revenir à la vigne? Comment revenir travailler avec les autres? Comment faire pour entendre ce que Dieu me demande à moi, spécifiquement? Comment faire pour continuer à répondre à mon appel? J'aimerais vous proposer une réponse qui tient en un mot. Spiritualité. La spiritualité, c'est passer du temps avec Dieu. Comme Moïse a entendu son appel au buisson ardent, c'est dans une rencontre intime avec Dieu. C'est près de Dieu que nous entendrons le nôtre et que nous serons renouvelés dans notre appel. Je ne parle pas là de lire sa Bible et prier tous les jours comme un rituel automatique. Il s'agit de se mettre réellement à l'écoute de Dieu pour lui demander ce qu'il attend de nous. Prier pour lui confier nos doutes, nos relations difficiles, nos ras-le-bol. Si c'est lui qui nous a donné cet appel, qui nous a donné ce boulot, si c'est lui qui nous a placés dans cette situation, c'est à lui que se destinent nos plaintes, pas à ceux qui sont à côté de nous. Ce n'est pas à eux de nous entendre râler. Prier, lire sa parole, y retourner avec persévérance, méditer ce que nous lisons, le confronter à ce que nous vivons. Nous imprétier de qui Dieu est, de comment il travaille, de ce qu'il est le Tout-Puissant, qui déroule son plan, quoi qu'il arrive, de le voir dans ce qui est rapporté de nos aînés dans la foi. Le lire, le relire pour nous fortifier dans cette pensée, comme on aime, même si on le sait, à s'entendre répéter qu'on nous aime. Et prendre du temps. Prendre des temps différents aussi, des temps de jeûne, des temps de retraite, des temps où on fait les choses différemment, comme Moïse qui a fait ce détour pour aller voir le buisson, pour voir Dieu sous un autre angle, pour s'ouvrir à d'autres choses. Et c'est également le faire en communauté, vivre cette recherche ensemble, vivre ainsi. Il nous unit. Parce que même si ce n'est pas toujours simple d'être les uns avec les autres, il place à côté de nous des Aaron, comme il l'a fait pour Moïse. Et même si un jour c'est difficile, souvenons-nous de la joie avec laquelle nous avons accueilli l'arrivée de ses compagnons de route. Il nous a placés ensemble délibérément, c'est son choix, il l'a fait en toute conscience dans un but. Souvenons-nous-en et entrons dans son action. Je le disais en introduction, le texte sur lequel j'ai parlé ce matin est long et il n'a pas été lu. Je vous invite à le relire. C'est encore l'été, pour certains c'est encore les vacances. Lisez ces chapitres, le chapitre 3 d'Exode jusqu'au chapitre 4, verset 18. Et posons-nous la question de notre appel. Est-ce que j'entends l'appel du Seigneur sur ma vie? Est-ce que je lui suis fidèle? Est-ce que moi aussi, comme Moïse, j'ai des craintes profondes, une crainte profonde, une blessure vers laquelle je ne veux pas retourner. Et passons du temps devant lui pour l'écouter, pour nous rapprocher de lui, pour être en communion, en communication avec notre Dieu. Celui qui est toujours avec nous, celui qui agit, qui fait le travail, et où finalement nous n'avons plus que du plaisir à le suivre. Je vous invite à la prière. Seigneur, dans ce texte, il y a vraiment un contraste entre la douleur de Moïse, qui a été blessé, et ton amour est présent et qui promet de l'accompagner. Et j'aimerais te prier que, comme Moïse a accepté de lâcher pour te suivre et entrer dans ton action, nous aussi, nous puissions entrer dans ton action sans réserve. Je te prie que tu guérisses ce qui a besoin de guérison et que tu nous équipes là où nous en avons besoin. Je te prie que tu places à nos côtés les compagnons de tâche. Surtout, Seigneur, comme nous l'avons prié, je te prie que ton règne vienne. Que ce plan que tu déroules arrive à échéance. Et que bientôt, nous puissions être avec toi pour nous réjouir comme tu nous l'as promis. Je te prie au nom de Jésus. Amen.